Comme la dernière fois, Albert Onox l'attendait assis sur les marches. « Assieds-toi là, » dit-il en enchaînant sur le champ. « Nous avons déjà parlé de la Renaissance, du Baroque et du siècle des Lumières. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au romantisme, qui est peut-être la dernière grande période culturelle que l'Europe ait connue. Nous approchons de la fin, mon enfant. La période romantique a duré si longtemps que ça? Elle a commencé à la fin du XVIIIe siècle et a continué jusqu'au milieu du XIXe siècle. Mais après 1850, parler de grands mouvements qui englobent aussi bien la littérature et la philosophie que l'art, la science et la musique n'a plus de sens. Le romantisme était un de ces grands mouvements? On a dit que le romantisme était le dernier mouvement à définir un mode de vie. Cela commença en Allemagne, en réaction contre le règne sans partage de la raison pendant le siècle des Lumières. Après Kant et sa philosophie de la raison, qui était plutôt austère, les jeunes, en Allemagne, avaient envie d'air pur. Et qu'est-ce qu'ils proposaient? Les nouveaux mots d'ordre étaient « sentiment »,« imagination », expérience et nostalgie. Certes, le sentiment n'avait pas été complètement mis de côté par les philosophes du siècle des Lumières, rappelons-nous Rousseau, mais ce n'était que pour faire contrepoids à la raison. Ce qui n'était qu'accessoire devint dorénavant essentiel dans la culture allemande. Kant n'était plus à la mode? Oui et non. De nombreux romantiques se considéraient comme ses descendants. Kant avait clairement indiqué qu'il y avait des limites à ce que nous pouvons savoir de « la chose en soi »,« das Ding an sich », tout en soulignant l'importance du sujet sur la voie de la connaissance. Ainsi, chacun pouvait à sa guise redéfinir son rapport au monde et donner sa propre interprétation du réel. Les romantiques pratiquèrent à l'outrance ce « culte du moi ». Tout ceci aboutit à l'idée de génie artistique comme quintessence de l'esprit romantique. Il y eut beaucoup de génies comme ça? Beethoven en est un exemple. Sa musique traduit les émotions et les désirs d'un être humain, et à ce titre, il s'oppose aux grands maîtres de la musique baroque comme Bach et Handel, qui composaient en l'honneur de Dieu et d'après des règles souvent assez strictes. Je connais seulement sa sonate au clair de lune et la 9e symphonie. Mais tu sens le romantisme de cette sonate et l'atmosphère dramatique de la 9e symphonie, dite « symphonie du destin ». Mais tu m'as dit que les humanistes de la Renaissance étaient eux aussi des individualistes. Oui, il y a beaucoup de traits communs entre la Renaissance et le romantisme. Entre autres, la place privilégiée accordée à l'art comme moyen de connaissance. Kant n'y est pas étranger. Puisque dans son esthétique, il s'était interrogé sur l'origine de notre ravissement face à quelque chose de très beau, comme par exemple une œuvre d'art. Selon lui, en nous abandonnant à la contemplation esthétique sans rechercher autre chose qu'une expérience d'ordre artistique, nous nous approchons d'une forme d'expérience de la chose en soi, car nous débordons du strict cadre de notre raison. L'artiste peut donc faire passer quelque chose que les philosophes sont incapables d'exprimer? Telle était du moins la conception des romantiques. L'artiste exerce librement, pour Kant, sa faculté de connaissance et joue avec elle. Le poète allemand Schiller développa les idées de Kant en disant que l'activité artistique est comme un jeu où l'homme est libre puisqu'il invente ses propres règles. Les romantiques pensaient que seul l'art nous permettait de cerner l'indicible. D'autres allèrent jusqu'à comparer l'artiste avec Dieu. Ce n'est pas si surprenant, puisque l'artiste crée sa propre réalité exactement de la même façon que Dieu a créé le monde. L'artiste a une imagination créatrice. Porté par son élan créateur, il abolit la différence entre le rêve et la réalité. Novalis, qui était un de ces génies romantiques, déclara que « le monde devient rêve, le rêve devient monde ». Il écrivit un roman intitulé « Heinrich von Ofterdingen », qui resta inachevé à la mort de l'auteur en 1801, mais qui eut cependant un énorme retentissement. Il y est question du jeune Heinrich qui part à la quête de la fleur bleue, qu'il a aperçue un jour en rêve et n'aspire qu'à retrouver. Le poète romantique anglais Coleridge exprima la même idée par ces termes. What if you slept? And what if in your sleep you dreamt? And what if in your dream you went to heaven and there plucked a strange and beautiful flower? And what if, when you awoke, you had the flower in your hand? Oh, what then? Et si vous dormiez? Et si dans votre sommeil vous rêviez? Et si dans votre rêve, vous alliez au ciel cueillir une fleur aussi belle qu'étrange? Et si à votre réveil, vous teniez la fleur à la main? Ah, que diriez-vous? C'est joliment dit. Cette nostalgie, cette quête de quelque chose d'éloigné et d'insaisissable était caractéristique de la mentalité romantique. On regrettait les époques révolues comme le Moyen Âge, par exemple, qui profita alors de l'image négative du siècle des Lumières. Les romantiques voulaient aussi retrouver la trace de cultures plus lointaines, comme la culture et la mystique orientale. Ils se sentaient attirés par la nuit, les lueurs crépusculaires, les ruines et le surnaturel, en un mot, par tous les aspects nocturnes, c'est-à-dire étranges et mystiques de l'existence. Ça paraît plutôt attirant comme époque. Mais qui étaient ces romantiques dont tu parles? Le romantisme fut tout d'abord un phénomène urbain. Cela correspond à l'épanouissement de la culture dans la plupart des grandes villes d'Europe dans la première moitié du 19e, et tout particulièrement en Allemagne. Le romantique type était un jeune homme, souvent étudiant, même s'il ne brillait pas dans ses études, avec une conception de vie très anti-bourgeoise, allant jusqu'à qualifier les autres, que ce soit la police ou sa logeuse, de « sales petits bourgeois », voire « d'ennemis ». Ce n'est pas moi qui aurais osé héberger un étudiant romantique dans ces conditions. La première génération de romantiques eut 20 ans vers 1800, et on peut dire que le mouvement romantique fut la première révolte des jeunes en Europe. On trouve en effet beaucoup de traits communs entre eux et les hippies, 160 ans plus tard. Les fleurs, les cheveux longs, les riffs à la guitare et l'éloge de la paresse? Oui, l'oisiveté passait pour l'idéal du génie, et la paresse pour la vertu du romantisme. Les romantiques considéraient comme leur devoir de faire toutes sortes d'expériences, mais aussi de s'échapper du monde par le rêve. La routine, c'était bien assez bon pour les petits bourgeois. Y a-t-il eu des romantiques en Norvège aussi? Oui. Wergeland et Welhaven, par exemple. Wergeland incarna beaucoup d'idéaux du siècle des Lumières, mais sa vie est typiquement celle d'un romantique. Il était constamment amoureux. Mais sa Stella, pour qui il composa tous ses poèmes d'amour, resta toujours, très caractéristique du romantisme, une figure aussi lointaine et inaccessible que la fleur bleue de Novalis. Ce dernier se fiança à une jeune fille qui n'avait que 14 ans. Elle mourut 4 jours après son 15e anniversaire, mais Novalis lui resta fidèle toute sa vie. Tu dis qu'elle mourut 4 jours après avoir eu 15 ans? Oui. Moi aussi j'ai 15 ans et 4 jours aujourd'hui. C'est vrai. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Sophie. Quoi? Eh bien, oui. Tu me fais peur. Ce serait quand même une drôle de coïncidence. « Je ne sais pas, Sophie. Le fait est qu'elle s'appelait Sophie. Continue. » Novalis ne vécut que jusqu'à 29 ans. Il fut un de ces « jeunes morts » dont peut s'enorgueillir le romantisme. La plupart à cause de la tuberculose, mais certains parce qu'ils se suicidèrent. « Oh mon Dieu !» Ceux qui vieillirent cessèrent d'être romantiques quand ils atteignirent la trentaine. Ils devinrent de bons bourgeois bien conservateurs. Bref, ils passèrent dans le camp ennemi. Oui, si tu veux. Mais revenons à la conception romantique de l'amour. Ce schéma de l'amour impossible, nous le trouvons déjà chez Goethe, dans son roman épistolaire « Les souffrances du jeune Werther », qui parut en 1774. Ce petit livre se termine par le suicide du jeune Werther, qui ne peut obtenir celle qu'il aime. Est-ce que ce n'était pas un peu exagéré? Il y eut une telle vague de suicides à la suite de ce roman qu'il fut un temps interdit au Danemark et en Norvège. Être romantique, ce n'était donc pas si anodin que ça. il y avait de violentes émotions en jeu. Quand tu parles des « romantiques », je pense toujours à la peinture de paysages. J'imagine de grandes forêts sombres, une nature sauvage un peu perdue dans les brumes. Une des caractéristiques du romantisme, c'était précisément la nostalgie d'une nature sauvage et mystique. C'était une vision créée de toutes pièces. Tu te souviens peut-être de Rousseau, qui lança le mot d'ordre du « retour à la nature ». Le romantisme permit enfin de donner une dimension réelle à cette formule, puisque ce mouvement s'oppose à la conception mécanique de l'univers au siècle des Lumières. Le romantisme renouait avec la tradition de la conscience d'être au monde. Explique-toi. Cela implique que la nature est considérée comme un tout. Les romantiques s'inscrivent dans la tradition de Spinoza, de Plotin et des philosophes de la Renaissance comme Jacob Böhme et Giordano Bruno. Tous ces philosophes affirment avoir fait l'expérience d'un « moi divin au sein de la nature ». Ils étaient panthéistes. Descartes et Hume avaient opéré une nette distinction entre le « moi » du sujet et l'étendue de la réalité. Kant aussi avait laissé cette séparation entre le « moi connaissant » et la nature en soi. Et voilà qu'on déclarait que la nature n'était qu'un immense « moi ». Les romantiques se servaient aussi de l'expression « l'âme du monde » ou « l'esprit du monde ». Je comprends. Le premier grand philosophe romantique fut Friedrich Wilhelm Schelling, qui vécut de 1775 à 1854 et qui tenta d'abolir la distinction entre l'esprit et la matière. Toute la nature n'était, selon lui, que l'expression d'un absolu ou de l'esprit du monde. Ça fait penser à Spinoza. La nature est l'esprit visible. L'esprit, la nature invisible, dit Schelling. Car partout dans la nature, nous pouvons deviner un esprit qui ordonne et structure. La matière est de l'intelligence ensommeillée, ajoute-t-il. Tu peux préciser, s'il te plaît? Schelling voyait en la nature l'esprit du monde. Mais il voyait aussi cet esprit à l'œuvre dans la conscience de l'homme. Vu sous cet angle, la nature et la conscience de l'homme sont simplement deux formes d'expression de la même chose. Au fond, pourquoi pas? On peut donc chercher l'esprit du monde aussi bien dans la nature qu'en soi-même. C'est pourquoi Novalis a pu écrire que « le chemin mystérieux va vers l'intérieur ». Il entendait par là que l'homme porte tout l'univers en lui, et que c'est en plongeant à l'intérieur de soi-même que l'homme peut ressentir le mystère du monde. C'était pas mal comme idée. Pour les romantiques, la philosophie, les sciences expérimentales et la littérature faisaient partie d'un grand tout. Que l'on compose des poèmes inspirés à son bureau ou que l'on étudie la vie des fleurs et la formation des pierres, c'est la même chose. Car la nature n'est pas un mécanisme mort, mais un esprit du monde vivant. Si tu continues, je vais finir par devenir une romantique. Schelling observait une évolution dans la nature qui partait de la terre et de la pierre jusqu'à la conscience de l'homme. Il soulignait les différents stades qui permettent de franchir toutes les étapes qui vont de la nature inanimée jusqu'à des formes de vie de plus en plus élaborées. La nature était conçue par les romantiques comme un organisme, c'est-à-dire un tout qui laisse s'épanouir ses possibilités internes, ou si tu préfères, comme une fleur qui s'ouvrirait en montrant ses feuilles et ses pétales. Ce pourrait aussi être un poète qui laisserait venir à lui ses poèmes. Est-ce que ça ne rappelle pas un peu Aristote? Bien sûr que si. La philosophie romantique de la nature présente des traits communs à la fois avec le néoplatonisme et Aristote, qui concevait davantage les phénomènes naturels d'un point de vue organique que les matérialistes mécaniques. Je vois ce que tu veux dire. Le même raisonnement s'applique à l'histoire. Celui qui, à cet égard, joua un rôle déterminant pour les romantiques fut Johann Gottfried Herder, qui vécut de 1744 à 1803. Selon lui, le cours de l'histoire était le fruit d'un processus visant à un but bien précis. Il avait une conception dynamique, nous dirions, en opposition à la conception statique des philosophes du siècle des Lumières. Herder rendit justice à chaque époque, de même que chaque peuple avait sa spécificité, ce qu'il appelle l'âme du peuple. Toute la question est de savoir si nous sommes capables de nous transposer dans ces différentes cultures. Tout comme nous devons pouvoir nous mettre à la place de quelqu'un d'autre pour mieux comprendre sa situation, nous devrions être capables de nous imaginer vivre dans d'autres cultures pour mieux les comprendre. C'est devenu un lieu commun de nos jours, mais c'était très nouveau à l'époque romantique. Le romantisme contribua en effet à renforcer l'identité culturelle de chaque nation. Ce n'est pas un hasard si la lutte de la Norvège pour regagner son indépendance connut son apogée en 1814. Je comprends mieux maintenant. Mais il faut distinguer deux formes de romantisme. Celui qu'on a appelé le romantisme universel et qui fait référence à la conception de la nature, à l'âme du monde et au génie artistique et qui se développa surtout à Iéna, en Allemagne, vers 1800. Et l'autre ? Eh bien, c'est le romantisme national qui connut un essor quelques années plus tard à Heidelberg. Les romantiques nationaux s'intéressaient surtout à l'histoire, à la langue du peuple, c'est-à-dire à tout ce qui relevait de la culture populaire. Car le peuple aussi était considéré comme un organisme devant développer ses possibilités internes, tout comme la nature ou l'histoire. Dis-moi où tu vis et je te dirai qui tu es. Ce qui relie ces deux aspects du romantisme, c'est la notion d'organisme. Tout, que ce soit une plante, le peuple, un poème, la langue ou la nature tout entière, était considérée comme un organisme vivant. L'esprit du monde était tout aussi présent dans la culture populaire que dans la nature et l'art. Je comprends. Herder avait rassemblé des chansons populaires de nombreux pays et il avait fort judicieusement intitulé son recueil « Stimmen der Völker in Liedern », un recueil de chants traditionnels. À Heidelberg, on commença à rassembler des airs et des contes populaires. Tu as entendu parler des contes des frères Grimm ? Ah oui, Blanche-Neige, Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, Hansel et Gretel, et tant d'autres. De même en Norvège, Asbjørnsen et Mo voyagèrent à travers tout le pays pour recueillir la vraie littérature du peuple. On redécouvrit aussi les anciens mythes et les poèmes païens. Des compositeurs se mirent à introduire des airs populaires dans leur musique, tentant par ce moyen de rapprocher la musique populaire de la musique dite savante. La musique dite savante ? C'est-à-dire composée selon des règles bien précises par une seule personne, disons Beethoven. Alors que la musique populaire venait du peuple lui-même et non d'un seul individu. Aussi est-il très difficile de dater les airs populaires. C'est la même chose pour les contes populaires par rapport à la littérature dite savante. La littérature dite savante ? Oui, c'est une littérature écrite par une seule personne. Prenons H.C. Andersen. Les romantiques raffolaient justement des contes. Il suffit de songer au grand écrivain allemand passé maître dans ce genre, E.T.A. Hoffmann. Ça me dit quelque chose, les contes d'Hoffmann. La forme du conte était une des formes littéraires de prédilection des romantiques, comme avait pu l'être le théâtre pour la période baroque. Cela permettait à l'écrivain de laisser libre cours à son imagination. Il pouvait se croire le dieu d'un univers recréé de toutes pièces. Exactement. Bon, je crois que nous pouvons à présent nous résumer. Je t'en prie. Les philosophes romantiques concevaient l'âme du monde comme un moi, qui, dans un état plus ou moins onirique, pouvait recréer le monde. Le philosophe allemand Johann Gottlieb Fichte expliquait que la nature n'est que l'émanation d'une instance supérieure qui prend inconsciemment cette forme. Pour Schelling aussi, le monde est en Dieu. Dieu est conscient de ce qu'il crée, mais il existe aussi des faces cachées dans la nature qui représentent ce qui est inconscient chez Dieu. Car Dieu aussi a son côté nocturne. C'est une pensée à la fois effrayante et fascinante. Ça me rappelle Berkeley. C'est la même chose entre l'écrivain et son œuvre. Le conte permettait à l'auteur de laisser libre cours à son imagination, et l'acte de création échappe toujours un peu à la conscience de son créateur, comme si l'œuvre se produisait elle-même. On pouvait presque écrire comme sous hypnose. Ah bon? Mais l'écrivain pouvait à tout moment briser le charme en glissant quelques commentaires ironiques à l'encontre du lecteur, histoire de rappeler que ce n'était qu'un conte. Je comprends. De cette façon, l'écrivain pouvait dire au lecteur que sa propre existence, elle aussi, était merveilleuse. On a qualifié cette forme de rupture de l'illusion d'ironie romantique. Le dramaturge norvégien Henrik Ibsen met par exemple dans la bouche d'un des personnages de Peer Gynt que « personne ne meurt au beau milieu du cinquième acte ». Je vois bien ce que cette réplique a de comique, puisqu'elle dénonce complètement l'illusion théâtrale. Cette formulation est si paradoxale qu'il convient de sauter une ligne après. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, rien, Sophie. Mais nous avons parlé de la fiancée de Novalis qui s'appelait Sophie comme toi et qui mourut alors qu'elle avait tout juste 15 ans et 4 jours. Tu comprends que cela m'ait fait peur? Le regard d'Alberto devint fixe. Tu ne dois pas craindre d'avoir la même destinée que la fiancée de Novalis, reprit-il. Et pourquoi donc? Parce qu'il reste encore quelques chapitres. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis que celle qui est en train de lire l'histoire de Sophie et d'Alberto sent au bout de ses doigts qu'il reste encore beaucoup de pages à tourner. Nous n'en sommes qu'au romantisme.
Tu me donnes le vertige.
En réalité, c'est le major qui essaie de donner le vertige à Hilde. Tu ne trouves pas ça lâche, dis. Allez, fin du paragraphe.